Vous écoutez CHIZ 94.3 FM, Québec.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi, 18h30.
Au 94.3, CHIZ.
Hell yeah, CHIZ.
Pour le meilleur beat du Beatnik Show, man, t'as le dit, c'est malade.
Cet été, les capitales de Québec sont de retour sur les ondes de CHIZ 94.3. Tous les matchs à domicile vous seront présentés sur le site web du CHIZ.ca. De plus, les matchs à domicile du jeudi au samedi vous seront aussi présentés sur les ondes du 94.3 FM. Cet été, CHIZ 94.3 et les capitales forment une équipe gagnante.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur CHIZ qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Vendredi 17 juin 2022, ici Alex Bergeron et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de CHIZ 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke. Vos radios universitaires préférées. Un tout petit peu d'avance du côté de Québec, puisqu'à 11h, aujourd'hui même, il y aura une toute première émission en direct de Tadoussac pour le Festival de la chanson. L'équipe qui est sur place prendra donc l'antenne à 11h, ce qui fait que le Réchaud est à 10h ce vendredi, exceptionnellement. Donc, on commence déjà pour la revue de l'actualité de la semaine. Sherbrooke, ben, il est 17h et quelques, donc tout va bien. On débute cette semaine avec quelques nouvelles un peu loufoques, parce que pourquoi pas, et parce que c'est toujours drôle un peu de rire dans cette actualité qui est toujours un peu sombre. Quoi de mieux que de rire qu'avec la poursuite de Sylvie Gabriel contre Mike Ward qui tombe dans l'oubli grâce à la Cour du Québec qui a rejeté le recours en diffamation entrepris par sa mère contre Mike, à qui elle réclamait près de 85 000 $ en dommages et intérêts. Plainte qui avait été déposée en janvier dernier, le 31 janvier pour être exact, une demande en diffamation de harcèlement et intimidation contre Mike Ward. Sylvie Gabriel réclamait alors la somme de 84 600 $. Mike et son avocat a répliqué quant à lui en déposant une demande en irrecevabilité et déclaration d'abus plaidant la prescription du recours et l'utilisation de manière excessive de la procédure par Sylvie Gabriel, ce qui constituerait selon lui un détournement des fins de la justice. Donc, pour acharnement contre sa personne, qu'il ne devait pas entendre cette cause-là. La Cour du Québec lui a donné en partie raison en déclarant effectivement irrecevable la demande de Sylvie Gabriel parce que prescrite, donc les événements où elle aurait pu le poursuivre dans les délais est expiré depuis longtemps. La juge Manon Goudreau estime toutefois que le recours de cette dernière ne peut pas être qualifié d'abusif, puisque techniquement, c'est la première fois, entre guillemets, que c'est Sylvie contre Mike qui dépose une plainte. Même si dans les faits, il y a eu plusieurs choses, mais techniquement, c'était les droits de la personne. La Commission des droits du Québec contre Mike et non plus Sylvie et Jérémy contre Mike. Donc dans ce cas-ci, techniquement, Sylvie en était à sa... Techniquement, on était à sa première cause devant les tribunaux. On ne saurait rapprocher à la demanderesse d'avoir, dans le contexte du présent dossier, tenté d'entreprendre le seul recours demeurant encore à ses dispositions. Certes, il est tardif, mais il ne s'agit pas pour autant d'un comportement abusif écrit le juge Gaudreau. Il s'agit donc d'un deuxième revers. Bon, voilà, je dis que c'est la première fois, c'est la deuxième fois. Il s'agit donc d'un deuxième revers pour la mère Jérémy Gabriel qui avait, en 2012, porté plainte à la Commission des droits de la personne. Bon, OK, c'est vrai, c'est techniquement les droits de la personne encore à ce moment-là, mais éventuellement, devant la Cour suprême, ce n'est plus Sylvie Gabriel. Donc, deuxième revers pour la mère de Jérémy Gabriel qui avait, en 2012... porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour discrimination fondée sur le handicap et atteinte discriminatoire à la dignité de son fils, de son conjoint et d'elle-même. On se souviendra qu'elle voulait de l'argent pour elle, le conjoint et Jérémy, le conjoint qui n'est pas le père de Jérémy Gabriel. Plus les étapes ont avancé, évidemment, l'argent pour le beau-père s'est tombé, l'argent pour la mère s'est tombé. Il y a eu un verdict qui a été rendu pour donner de l'argent seulement à Jérémy Gabriel. Verdict qui a été porté en appel, qui a été perdu par Mike Ward, qui s'est rendu à la Cour suprême. À la Cour suprême, on a convenu à 6 contre 5... Il me semble son 11, donc à 6 contre 5, que Mike n'avait pas enfreint la loi en parlant de Jérémy Gabriel dans son spectacle. Si on peut résumer les 10 dernières années rapidement. Estimant la plainte fondée, voilà, la commission a déposé en 2014, donc 2 ans plus tard, le recours contre Mike devant les tribunaux des droits de la personne, qui a rendu 2 ans plus tard un jugement favorable à Sylvie Gabriel et son fils et a condamné l'humoriste à lui verser la somme de 42 000 $ total. Porté en appel par Mike, le jugement, bon voilà, finalement ça répète ce que je viens juste d'expliquer. Et c'était la suite du revers à la Cour suprême qui rejetait le recours de la commission, en disant également à la Cour du Québec qu'ils avaient outrepassé leurs fonctions. Sylvie Gabriel a déposé en janvier son recours devant la Cour du Québec. Son fils a, de son côté, entrepris des procédures en Cour supérieure contre Mike Ward, qui lui réclame, lui, la somme de 372 600 $. Le jugement dans cette cause n'a toujours pas été rendu. Cependant, quand cette nouvelle-là était sortie, on se souviendra à l'émission, je l'avais fait jouer la clip, on avait Jérémy Gabriel dans un podcast qui va dire, dans un balado, qui va dire, tu sais, si je voulais faire une passe de cash, j'aurais poursuivi Mike Ward pour 400 000 $. Oh, comble du hasard, 372 600 $. Fait que tu sais, ça part mal quand il y a une clip sur Internet qui dit « Si je voulais faire une passe de cash, je poursuivrais Mike pour tel montant et c'est drôle, c'est ce montant-là. » Enfin, on dit ça, on dit rien. Donc, voilà pour cette nouvelle un peu loufoque. Et autre nouvelle loufoque qu'on a pu voir passer dans la presse, notamment, c'était en la fin de semaine dernière. La journaliste se posait la question: peut-on se proclamer reine du Canada? Puisque le 2 juin dernier, est-ce que c'est bien le 2 juin? Ouais, le 2 juin. Le 2 juin dernier, la reine autoproclamée du Canada et folle finie de la Colombie-Britannique, Romana Dizulo, a fait une forte impression par un passage en Gaspésie où 2 roulottes du convoi royal de Dizulo qu'elle dirigeait ont été saisies en Gaspésie en raison d'irrégularités sur les immatriculations et les permis de conduire des gens qui conduisaient la roulotte. Puisque la conspirationniste canadienne, adepte de QAnon et reine autoproclamée du Canada, a déclaré sur son compte Telegram n'avoir pourtant enfreint aucune loi, puisqu'elle est la reine. Donc, elle est au-dessus des lois. Et de toute façon, c'est au-dessus de ses propres lois, puisqu'elle a émis des décrets pour permettre évidemment sa garde rapprochée de conduire pas de permis et que les immatriculations, ben ça sert à rien parce que c'est les chars de la reine. Donc pourquoi payer les immatriculations? Ce qui fait demander à la presse, peut-on se réclamer reine de quoi que ce soit? La réponse est facile, non. On ne peut pas se réclamer reine du Canada puisque le Canada est une monarchie constitutionnelle. On ne devient pas roi ou reine parce qu'on se l'est proclamé nous-mêmes. On devient roi ou reine parce qu'on est la personne désignée par une série de règles de succession royale. Donc, en course pour être à la succession de la reine actuelle qui a ses 97 ans. Bien sonné, ben c'est son fils. Et si c'est pas son fils, ben c'est son petit-fils. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on passe au travers des premiers enfants. Ensuite, on passe au travers des... En fait, non. Des premiers enfants du premier fils. Donc, après William, c'est Harry. Si Harry, ben Harry, techniquement, ne voudra pas être le roi, évidemment. Donc, on passe aux frères et sœurs de Charles, le numéro 3. En fait, non, même pas. C'est les enfants de William qui passent en premier. Et si les enfants de William n'assurent pas la succession, ben ça va à Harry qui est après ça. Et si Harry refuse, ben on s'en va aux frères et sœurs de Charles. Donc on est rendu aux enfants de la reine, frères et sœurs. Donc les autres, si eux autres, ben évidemment après ça, ça va aux enfants dans l'ordre suivant. Fait que... Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on réussisse à trouver. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont 100e et 150e héritiers du trône, mais qui sont par la couronne des arrière-arrière-arrière-arrière-neveux de la reine. Fait que tu sais, ça va être long avant que Romana Didulo accède au trône, bien qu'elle n'ait aucun sang royal en elle, autre que d'être royalement folle, je le répète. On ne peut pas se proclamer reine parce que le Canada est une monarchie constitutionnelle. Voilà, je l'ai dit. Ces règles s'inscrivent dans de vieilles lois de l'Empire britannique et dans le Common Law constitutionnel, selon Amélie Binette, étudiante au doctorat de la Faculté de droit à l'Université Laval. Les règles de succession royale peuvent toutefois être modifiées, mais il faut passer par une loi du Parlement. Au Canada, c'est en passant par la Constitution formelle. Donc, il faudrait ouvrir la Constitution du Canada pour y insérer... quelqu'un qui vient au-delà de la... Ça devient compliqué. On ne peut pas se lever d'un bon matin et se dire « Moi, je vais faire partie de la succession royale. Ce sont des règles héréditaires, évidemment. » Donc, Romana Didulo est une citoyenne comme les autres, même si elle fait de plus en plus d'adeptes. On dit que ses comptes Telegram, qui est un genre de Facebook caché où on peut dire à peu près n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de règles dans ce genre de réseau social-là. Elle a à peu près 60 000 personnes qui la suivent et qui disent « Gloire à la reine ». Fait que tu sais, pour ça, c'est ça qui est le bout un petit peu inquiétant. On en avait parlé également l'automne dernier puisque la Sûreté nationale, la GRC, avait enquêté sur elle, l'avait arrêtée, l'avait mise en examen pour des propos qu'elle avait tenus de... pas si comme carabine, c'est pas elle qui a dit ça, mais tu sais qu'elle voulait qu'il y ait des représailles contre les pharmacies, contre les centres de vaccination, contre les gens qui faisaient de la vaccination pendant le plus gros à l'automne dernier, qu'elle disait qu'elle avait décidé que c'était illégal, donc de se préparer à prendre les armes. Donc, propos qui était quand même inquiétant, donc on est allé la rencontrer, évidemment, elle a eu cette rencontre-là, elle a partagé son billet d'arrestation sur ses réseaux, évidemment. Et ce qui s'est passé en Gaspésie, donc on arrive un peu plus, il y a quelques semaines, ben quelques semaines, il y a deux semaines, donc début juin, elle se promenait dans sa roulotte royale du côté de la Gaspésie, donc elle est en tournée pan-canadienne de ce temps-ci, et après avoir brûlé un feu rouge dans la petite ville de Chandler, alors que la SQ avait arrêté un de ses chauffeurs de la section de la route 132 de l'avenue Jacques-Cartier, on a fait les vérifications d'usage et on s'est rendu compte que les roulottes n'étaient pas immatriculées, ou en tout cas les paiements n'avaient pas été faits, que les permis des gens qui chauffaient les roulottes n'était pas non plus en droit de conduire, n'avait pas la classe autorisée. C'est le dernier véhicule du convoi qui en contenait au moins 4. On l'a intercepté, on lui a remis un constat de réfraction de 173 pièces au conducteur pour avoir circulé sur le feu rouge. Ensuite, les policiers ont procédé à la vérification des conducteurs et des autres véhicules, explique le sergent Louis-Philippe Bilodeau, porte-parole de la SQ. Ce qui fait que, techniquement, le VUS... aurait été saisi pour 30 jours dans le convoi. Le conducteur du véhicule récréatif conduisait sans permis. La conductrice du VUS était au volant pour sa part d'un véhicule qui n'avait pas le droit de circuler. Donc, en plus de ne pas avoir de permis, la roulotte n'avait pas le droit de rouler. La plaque n'était pas en règle. Cette année ajoute que chacun des deux conducteurs a reçu un constat d'infraction d'un montant de 494 $. La SQ précise que la plupart des personnes interpellées dans le convoi étaient de l'extérieur de la province de Québec, donc probablement la Colombie-Britannique. Et de l'Ontario aussi, parce qu'elle est allée se promener au Parlement également pendant le convoi des camions. Le Journal de Québec a été informé de cette situation puisque Dizulot a filmé et partagé l'intervention des policiers sur son réseau social. La conspirationniste notoire a assuré à ses fans d'avoir enfreint pourtant aucune loi. La reine du Royaume du Canada est actuellement en séjour au chalet de Nature Océan à Percé, au Québec, a-t-elle écrit dans le dernier message cet après-midi pour rassurer ses fidèles, puisque même si elle est anglophone, elle fait quand même loi au Québec aussi, au sens où il y a des gens qui courent pour aller la rencontrer. C'est ce qui est arrivé du côté de Drummondville ce printemps, où elle faisait la tournée des Walmart, puisqu'elle s'était arrêtée au Walmart de Drummond pour rencontrer ses sujets de Trois-Rivières, Shawinigan et Drummond, bien évidemment. Elle faisait la tournée dans son Winnebago. Le bref discours a été prononcé devant le groupe de supporters qui s'était réuni près du motorisé de la reine. Ce discours a été suivi d'une ovation, même si tout le monde devait être déjà debout. C'est par l'intermédiaire d'une organisatrice qu'il a été possible d'apprendre que Dizulot effectuait un bref passage qui, selon les supporters, ne se voulait en rien une manifestation, mais bien une rencontre de courtoisie entre la reine et le regroupement des gens présents. Donc là, si on est en mars, ça veut dire qu'elle venait de partir d'Ottawa pour pas se faire arrêter, probablement. Donc, plusieurs supporters ont profité de son passage pour faire signer quelques items à l'effigie du regroupement, comme le drapeau mauve du Royaume du Canada. La rencontre s'est déroulée de façon pacifique et les échanges ont été brefs et cordiaux entre Dizulot et le public. Les policiers ont été interpellés sur place afin de s'assurer de la paix et du bon déroulement de la rencontre. Et ça, à la demande de la direction du Walmart qui s'inquiétait de la présence du regroupement dans son parking. La Sûreté du Québec, de son côté, les policiers ont procédé à la vérification et l'identification de certaines personnes présentes par mesure de sécurité en a quitté les lieux. Vraisemblablement, ce n'était pas le chauffeur du Winnebago qui n'était pas en règle lui-même. Donc, et c'est ce qui est arrivé. Notamment, Vice Canada s'est intéressé au phénomène de la reine autoproclamée. Elle invente des décrets. Elle a 79 décrets. Donc, elle a mis en place 79 règles au Canada pour régner en reine sur le pays. Notamment que les gens n'ont plus à payer leurs factures d'hydroélectricité ou leurs factures d'Hydro-Alberta, etc. Hydro-Québec, d'ailleurs, a eu un commentaire sur sa page comme quoi qu'ils étaient illégaux de continuer à percevoir l'argent des Québécois parce que la reine Dizulot avait dit que c'était illégal. Donc, en ce moment, il y a des gens qui se font couper leur chauffage, qui se font couper leur électricité, qui se font couper leur eau. Parce que dans l'Ouest, il faut qu'ils payent pour leur eau dans certaines régions. Parce que, évidemment, ils ne payent pas leurs règles, parce que là, Romana Dizulot leur a dit de ne pas payer. Et après ça, ben, ils vont se plaindre sur le réseau de Dizulot pour dire « Mais là, qu'est-ce qui se passe? Hydro-Alberta, ils veulent pas me rebrancher. Je leur ai parlé du décret, puis ils veulent pas me donner mon électricité. » Puis elle a dit « C'est correct, je vais m'en charger. » Évidemment, il se passe rien pantoute. Et ben c'est justement là, en ce moment, Hydro-Québec, il y a des gens qui vont commencer à pas payer leur compte, ou en tout cas, ils vont pas payer leur compte en faisant une facture pour Hydro-Québec lorsque les tribunaux de Romana Dizulot vont juger Hydro-Québec d'avoir continué à charger le monde quand il y avait un décret qui l'interdisait. Donc, c'est à peu près fou de même. Et dans ces 79 décrets-là, elle a également repassé l'âge du consentement à 24 ans. Donc, l'âge du consentement dans le Royaume du Canada est de 24 ans, sachez-le, pour à peu près tout, je pense. Donc, autant l'alcool que le consentement sexuel. Ce serait 30 ans d'emprisonnement si on la prend pas au sérieux, des affaires comme ça, qu'elle n'hésitera pas à utiliser la violence s'il le faut. Bon, puis après ça, ben justement, il y a des gens un peu plus fous que d'autres qui sont allés se promener devant des pharmacies, donner des mises en demeure du royaume du Canada, aller dans des écoles pour écœurer des directeurs et des directrices et tout ça. Donc, ça va pas très bien de ce côté-là. On s'entend que, bon, le mouvement conspirationniste QAnon, déjà là, est pas fort. Là, si on rajoute une folle à la tête de tout ça, ça rajoute des couches et tout ça. Donc, en ce moment... On espère que les véhicules sont toujours saisis en Gaspésie, donc une petite vacance forcée pour le mois de juin en Gaspésie. Malheureusement, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vont lui donner des choses parce qu'ils pensent qu'elle est légitime. Bref, investissons en santé mentale plutôt qu'en troisième lien, disons ça comme ça. Même si le pont Pierre-Laporte est sur le bord de s'écrouler dans le fleuve, parce que c'est fini le pont Pierre-Laporte, reste que la santé mentale et l'éducation pourraient être de bons chevaux de bataille ou mettre de l'argent, parce que c'est important que les gens sachent ce qu'ils font et ce qu'ils sachent réfléchir convenablement. On va dire ça comme ça. Donc... Au retour, on va en parler de ce pont sur le bord de s'écrouler. Là, je suis passé dessus un matin, puis j'ai eu peur. J'ai eu peur de finir dans le fleuve. Juste avant, on va aller avec Sweet Montérégie d'Alexandre Burger. D'Alex Burger, dis-je bien, sur les ondes de Chiz 94.3 et de ses FAC 88.3.
Dans un village près de chez vous, oh, les montagnes ne se prennent pas par la main et ça jase pas trop fort à son voisin. Non, ça jase de prix de gaz à tour de bras, à tour de bras, autour d'un café crème ici et là. Les étés sont cruels.
Yes.
retour au deuxième service. Bon, je vais en parler rapidement là, parce qu'on a fait le tour pas mal du pompier à la porte cette semaine. Quoi dire de plus? Là, en ce moment, le pont est sur le bord de tomber. On est rendu là, donc... À l'automne dernier, il y a des suspentes qui ont été remplacées en urgence pour, bon, la dégradation de ceux-ci, donc la rouille qui était pognée après les câbles d'acier et tout ça. Ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'il y a eu des tests qui ont été faits en laboratoire, entre guillemets, ou en tout cas à l'École polytechnique du côté de Montréal, où on s'est mis à tirer progressivement sur tous les câbles jusqu'à ce qu'ils cèdent pour voir la résistance résiduelle. Donc, à quel point il allait finir par péter si on met une force majeure dessus, genre les étirer avec une machine. Ce qui fait en sorte qu'il y a un rapport qui a été signé par deux ingénieurs du MTQ qui... remarque que ces tests-là font en sorte que les câbles pètent un peu plus rapidement que les précédents câbles qui ont été testés. Donc, quand on faisait les tests sur d'autres câbles qui ont été remplacés, ceux-ci, ceux de l'automne dernier, ont pété plus rapidement. Ce qui fait dire qu'en ce moment, les chances que des câbles pètent sur le pont... devient de plus en plus élevé. C'est donc un rapport de 100 pages qui a été transmis à des gestionnaires et à des hauts fonctionnaires du ministère du Transport le 21 avril dernier. Et selon les informations obtenues par enquête, par Radio-Canada, ils avaient été informés des faibles résultats des tests de résistance bien avant de recevoir le document. Donc, on les a prévenus quand les tests ont été faits, mais une fois le test écrit, envoyé, ça s'est pas rendu au ministre des Transports Bonnardel, François Bonnardel. Donc, les acteurs recommandent le remplacement de toutes les suspentes. Le plus tôt sera le mieux, écrivent-ils. Certaines doivent l'être à court terme pour éviter les remplacements en urgence ou des impacts importants au niveau de l'exploitation du pont. Ce qui se passe dans ce dossier-là, c'est que le coordonnateur en structure majeure à la direction territoriale de Chaudière-Appalaches pour le ministère des Transports, Christian Mercier, donc le gars responsable du pont en tant que tel, n'était pas au courant. Et évidemment, ben François Bonnardel non plus. Ce qui fait à ce moment-là que le gars principal qui est supposé être au courant que le pont ne va pas bien, ne l'était pas. C'est Radio-Canada qui les a mis au courant que ça n'allait pas bien. Même chose avec Bonnardel, il l'a su la veille que ce rapport-là existait et que, évidemment, comment se fait-il que le ministre n'était pas au courant? Il a appris l'existence du rapport mardi, 12 heures avant les révélations de Radio-Canada. Évidemment, cafouillage, il est fâché, il n'est pas de bonne humeur. Comment ça, je ne suis pas au courant? Ce qui fait en sorte que hier soir, on apprenait que le ministre Bonnardel va entreprendre des suspentes, le remplacement des suspentes, ou en tout cas va mandater des gens de remplacer les suspentes pendant l'été de manière accélérée. Je peux vous assurer d'une chose aujourd'hui, ça va prendre moins de 15 ans pour consolider, réparer ou remplacer ces suspentes, a soutenu le ministre Bonnardel au lendemain de la divulgation d'un rapport qui souligne le mauvais état du pont Pierre-Laporte. En entrevue au Téléjournal Québec, le ministre des Transports Bonnardel a mis les points sur les i. Jamais, au grand jamais, je ne vais lésiner sur la sécurité des infrastructures routières du ministère des Transports. Je dis donc aux Québécois que le pont est sécuritaire et qu'ils peuvent l'utiliser aujourd'hui. Le ministre a rappelé que des vérifications sont faites annuellement pour assurer la sécurité sur cette infrastructure. Il a surtout promis que le remplacement des suspentes serait accéléré. On a remplacé et consolidé certaines suspentes déjà. Il y a une quarantaine sur les 160 qui doivent être consolidées d'ici la fin de l'été. Et par la suite, le ministère prévoyait un remplacement, une consolidation des 160 d'ici les 15 prochaines années. Je peux vous rassurer d'une chose, ça va prendre moins de 15 ans pour réparer ou remplacer. Voilà le chiffre magique du 15 ans, c'est que ça ne prendra pas autant de temps que c'était prévu. Parce qu'évidemment, en ce moment, c'est dangereux que le pont va tomber. Pour ne pas être du tout dramatique. Voilà, donc Bonardel juge inacceptable le fait de ne pas avoir été mis au courant plus tôt de l'existence du rapport. Je prends très au sérieux le témoignage de l'ingénieur qui a sonné l'alarme. Je trouve inacceptable le fait que je n'ai pas été informé plus tôt. Mon sous-ministre va faire toute la lumière sur le processus qui a mené à ce cafouillage. Des gestes seront posés. Évidemment, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, c'est très inquiétant. Ce n'est pas tant l'état du pont qui est inquiétant, mais plutôt la façon dont le rapport a été pris en considération par le ministre. On a sorti des témoignages assermentés des plus hauts dirigeants du ministère des Transports qui évoquaient une urgence d'agir pour le pont à la porte. On s'est fait dire qu'on était irresponsable de dévoiler leurs propres documents. Ça, c'est surtout parce qu'ils sont en période de négociation en ce moment, donc on est à couteau tiré. On a fait une sortie pour dire « Notre travail est important, regardez, on vous dit, nous, que le pont à la porte est dans marde. » Et évidemment, ben à ce moment-là, tout ce que Bonardel trouvait à dire, c'est bon, là, en négociation, évidemment, sont dramatiques un petit peu, là, ça va pas si mal que ça. Finalement, ça prend un document qui fuite dans les médias pour dire que finalement, le pompier à la porte est peut-être dangereux un petit peu, et finalement, pour le ministre de dire, oh, ben là, on vous promet, on va le réparer rapidement. Et évidemment, ça fait en sorte que Gilles Lehouillier, maire de Lévis, en manque pas une pour dire que, voyez, c'est dangereux le deuxième lien. Ça prend un troisième. Donc, Gilles Lehouillier réitère que ça prend le bitube dans le fleuve à coût de 6,5 milliards pour passer ailleurs que sur le pont Pierre-Laporte. Que vous êtes sur le pont de la porte, il y a un véhicule sur quatre qui est un poids lourd. Un véhicule sur quatre. Que va-t-il arriver? Comment allons-nous pouvoir alimenter nos épiceries, nos supermarchés? C'est ça la conséquence réelle. C'est la raison pour laquelle nous, on dit un nouveau lien au plus sacrant. Selon le maire de Lévis. Parce que ce qui arrive, c'est que s'il faut fermer le pont Pierre-Laporte pour faire des études, pour évaluer les câbles et tout ça, ben, en ce moment, les poids lourds n'ont pas le droit de circuler sur le pont de Québec à côté. Donc, est-ce qu'on peut se priver de poids lourds qui traversent les deux rives? Pas vraiment. Évidemment, ce serait complètement illogique. Il y aurait possibilité, par contre, M. Lehouillier, que les poids lourds puissent continuer d'accéder au pont Pierre-Laporte uniquement et que tout le trafic automobile soit envoyé sur l'autre pont. Et après ça, si on dit ça va faire beaucoup trop de chars, ben mettez des autobus de la Société des Transports de Lévis qui vient du côté de Québec et la même chose du côté de Québec. Mettez des autobus davantage, réquisitionner des parkings du Maxi, du Walmart qui sont jamais pleins pour faire des stationnements incitatifs et organiser des navettes entre les deux rives. T'sais, s'il faut qu'on ferme vraiment le pont Pierre-Laporte, il y a peut-être moyen qu'on s'arrange pour que tout le monde puisse traverser quand même, ou en tout cas qu'on ramène le travail à distance. Qu'on ramène le travail à, le travail, oui, qu'on, tu sais, il y a moyen. Il y a eu des gens qui ont fait le transport en hélicoptère puis en Zodiac. On peut ramener une couple de Zodiac. On pourrait mettre un peu plus de traversiers aussi. Tu sais, si vraiment faut fermer le pont. Il y a des alternatives qui sont là, qui peuvent être faites. Ne serait-ce qu'un train de banlieue entre Lévis et Québec pourrait être également envisagé, il me semble, pour justement entre les deux centres-villes encore, tu sais, ou à peu près. Est-ce que ça vaut la peine de mettre un autre 6,5 milliards dans un bitube, pas de transport en commun et pas de financement de du Canada parce qu'il n'y a aucune valeur écologique là-dedans? Pas très certain de ça. On s'arrête quelques instants. Au retour, à la suite de l'actualité de la semaine, ici même sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3.
Le Festival Off de Québec, présenté par La Barberie, est enfin de retour dans sa formule traditionnelle, quoique légèrement différente cette année avec une recette axée plus que jamais sur la découverte, les expériences excentriques et les collaborations improbables. Avec une programmation dédiée en grosse majorité aux artistes de la ville de Québec, le Off, c'est plus de 25 shows du 6 au 10 juillet, répartis au parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste, à la Charpente des Fauves, à La Barberie et au Moitenap, un lieu secret qui sera révélé aux détentrices et détenteurs de billets. Information, les billetteries au québecoff.org.
OK, attention. 1, 2, 3.
Cheese! C'est la grande pirée d'été du Pantera.
Un bout de mon voisin, on se tape ses nerfs.
La tournée de Québec Redneck Bluegrass Project s'arrête à l'Agora du Vieux-Port de Québec le 30 juin prochain. Voyez également sur scène Groovy Artwork et les pionniers de la musique traditionnelle québécoise, le groupe Le Rêve du Diable. Les billets sont en vente dès maintenant sur lepointdevente.com. Québec Redneck Bluegrass Project, Groovy Artwork et Le Rêve du Diable, le 30 juin prochain à l'Agora du Vieux-Port de Québec.
Mais la mouche te mord,
comme tous les matins, je prépare le café pour nous deux. Mais son regard me fuit. Où est l'amour dans ses yeux? Essayer d'en parler et tourner en rond sans jamais de solution. Je lui ai donné tout ce que j'ai, puis elle s'en fout. Auparavant, je voyais les sacrifices qu'elle faisait pour être avec moi. Notre amour devait nous rendre libres. Mais c'est facile de faire des promesses quand t'es sous l'amour. Regarde-les s'évaporer quand elle en a fait le tour. Essayer d'en parler, tourner en rond sans jamais de solution.
Voilà, on vient d'entendre le titre de cette pièce, dont est Talbot, et featuring Émilie Plamondon avec Elle sent Chris, qu'on vient d'entendre sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Candidat recherché pour un véritable Squid Game, ce n'est pas une blague. On veut faire une télé-réalité avec la série Netflix, donc. Le jeu dans la vraie vie, sans personne tuée, bien sûr. La plateforme Netflix a lancé une distribution dans l'optique d'une adaptation télé-réalité de la série sud-coréenne qui a été phénomène. Ça fait-tu 2 ans maintenant, Squid Game? C'est quelle année? C'est 2020. C'est 2020? Je suis pas sûr. 2021. Septembre 2021 pour la sortie originale. Netflix a lancé, bon voilà, au terme de la plus grande distribution de l'histoire de la télé-réalité, 456 vrais concurrents prendront part au jeu en quête de gagner un véritable gros lot de 4,56 millions de dollars qui peut changer une vie, qui s'appellera Squid Game The Challenge, le défi. en français, on va dire. Non, les Français vont traduire ça par The Challenge. Voilà. Ces organisateurs recherchent des participants anglophones venant de n'importe quelle partie du monde. Donc, ça ne sera pas en coréen, malheureusement. Parmi les conditions requises, il faut avoir au moins 21 ans, être disponible pour participer au programme pendant au maximum, un maximum de 4 semaines prévues début 2023. Et être en mesure de voyager dans les endroits qui seront spécifiés. De vrais joueurs seront donc plongés dans l'univers emblématique du Squid Game et ne sauront jamais ce qui les attend. Est-il indiqué sur le formulaire de recrutement qui promet une série d'épreuves à couper le souffle? Donc, on peut présumer qu'il y aura des petites variantes à l'émission originale, parce qu'évidemment, on sait déjà un petit peu de quoi ont l'air les défis. Ne serait-ce que le défi final, pas le défi final, mais plutôt les punchs de nuit où on élimine du monde et des choses comme ça. Il y a des petits trucs, des petites surprises comme ça que le vrai Squid Game ont fait en sorte qu'on fait « Oh mon Dieu, ils n'ont pas fait ça ». Mais comme on s'y attend un petit peu maintenant, ben ça devient un peu plus difficile de surprendre, entre guillemets, avec du nouveau. Ce qui fait en sorte qu'on risque d'arriver avec de nouvelles épreuves. Ne serait-ce que le suc à la corde à 10 pieds dans les airs, ça, ben, ça, il peut rester tel quel. Ça reste un plongeon très élevé de piscine, mais ça reste un plongeon. Fait au-dessus d'une piscine, justement, au lieu d'être dans le vide complet comme dans l'émission, ça pourrait être une certaine alternative. Il y aurait le danger d'être très haut dans les airs. Bref. L'annonce a été faite par Netflix mardi cette semaine. Sur les réseaux sociaux. Elle peut surprendre, puisque dans la série, bon, les perdants sont au fur et à mesure des épreuves. Vu comme une critique acide des dérives du capitalisme, évidemment, Squid Game, la série, la télé-réalité va donner exactement ce que c'est dans la fiction, pour jouer à des jeux d'enfants, pour remporter une énorme somme d'argent au risque d'être tué. Dans la future émission de télé-réalité, le pire qui puisse arriver, c'est de rentrer chez vous les mains vides. Donc, passer un mois, on sait pas trop où encore, à ne pas gagner d'argent. C'est un peu le défi, mais en fait, n'importe quelle télé-réalité, c'est à peu près ça. De prendre un mois, deux mois, trois mois de son congé, de sa vie ordinaire pour aller s'enfermer dans une maison comme un Big Brother, ben, au final, si tu te fais éliminer après deux mois, tu gagnes rien. Tu sais, t'as pas gagné, à moins que t'aies dans un jeu, il y ait un montant d'argent qui a été remporté là, sinon, tu vas avoir passé deux mois et demi, trois mois à ne rien faire. C'est les dangers. Cette annonce a fait quelques jours après l'officialisation de la deuxième saison de Squid Game qui devrait être prévue pour 2024. La série, bon, qui se terminait sur un léger suspense de qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y avait un 2 qui survenait. Évidemment, ça a été un succès quand même assez planétaire. On a eu des cours d'école au Québec aussi, à Sherbrooke, très exactement, qui ont joué à Squid Game. Donc, quand ils étaient éliminés à 1, 2, 3, soleil dans la traduction, feu rouge, feu vert dans la version anglophone. Quand ils étaient éliminés, ben, les jeunes faisaient des gestes avec leurs doigts de « pas ou t'es mort ». Donc, évidemment, ça faisait des petites questions de « comment ça se fait que des enfants d'école primaire jouent à une série qui est techniquement 16 ans, voire 18 ans et plus sur les plateformes? Comment ça se fait? » Donc, c'est surtout c'était surtout ça la question qui se posait là-dessus, mais bon, quand même, c'est des choses qui arrivent. Et sinon, ben, difficile de passer à côté, mais niveau télévisuel, québécois. C'est quand même un point majeur, une personne majeure qui quitte l'antenne. Évidemment, un peu comme Bernard de Rome a quitté Radio-Canada, on l'a souligné en grande pompe. Quoique peut-être un petit peu moins quand même. Dans le cas de Pierre Bruno, ben on a fait le tour au grand complet des régions pour saluer Pierre Bruno. Chaque journaliste qui ont déjà ne serait-ce que parlé un petit peu à Pierre Bruno ont salué son travail. Et pour un bulletin de nouvelles qui a été un petit peu écourté pour les régions, probablement, parce qu'on est revenu à Pierre Bruno sur la fin. C'était hier soir, le dernier le dernier TVA 18h de Pierre Bruno pour officialisé par Pierre-Carl Péladeau, président général de Québécois, comme quoi le studio de nouvelles sera le studio Pierre Bruno, avec Pierre Bruno extrêmement émotif aux côtés de sa femme Ginette, qui était présente tout au long de cette grosse soirée, probablement ce qui lui a permis de de s'appuyer sur quelqu'un pour tous les hommages qu'il a reçus au courant du bulletin de nouvelles, ou en tout cas pour les quelques nouvelles qui ont réussi à se faufiler dans cette soirée-là. Ce qui fait également en sorte il prenait l'hommage, mais il se disait très ému de la situation. Donc quand même, c'était 47 ans, sauf erreur, de télévision pour Pierre Bruno. Donc il y a littéralement des gens qui n'auront connu que Pierre Bruno comme lecteur de nouvelles le soir. C'est Sophie Thibault qui vont le remplacer par la suite, pour le du moins ce qui est la case du 17h et du 18h. Sauf erreur, pour le 22h, c'est Zappa. Pierre-Olivier Zappa, qui était à TVA Économie. Je sais pas trop comment il l'appelle. C'est le canal Argent qui n'existe plus, mais TVA Économie. que Pierre-Olivier Zappa va remplacer Sophie Thibault aux 22h en semaine. Donc, pas un très gros jeu de chaises, quoique on a déplacé un petit peu le tout. Mais ce qui fait ça en sorte, évidemment que la pandémie a fait en sorte que Pierre Bruno est resté un petit peu plus longtemps que prévu. Quoique, il sera de la soirée électorale et du débat des chefs de TVA, le face-à-face, comme il l'appelle, cet automne. Donc, ce seront les deux dernières, entre guillemets, apparitions majeures de Pierre Bruno. Donc, il lancera sa dernière soirée électorale. Techniquement, ça veut dire que la prochaine, ce sera Sophie Thibault. Mais en même temps, on lui en donne pas une difficile. Comme je le disais dans les dernières semaines, ce sera pas une grosse soirée électorale rempli de palpitations, de « Oh mon Dieu, quels seront les résultats? » C'est si serré. Il va falloir attendre 11 heures le soir pour connaître les résultats. Toutes des phrases qui ne seront pas prononcées par aucune personne lors de la soirée électorale de cet automne. Le seul suspense qu'on pourra avoir, c'est si Québec solidaire conserve ses 10 sièges, ce qui techniquement ne devrait pas arriver, devrait tomber à 7. Est-ce que le PQ sera... Non, Pascal Bérubé se présente. Donc, est-ce que Pascal Bérubé sera véritablement le seul représentant du Parti québécois? À quelle heure démissionnera Dominique Anglade? Et combien de temps ça prendra avant que François Legault sera majoritaire avec la CAQ? Je rappelle ma prédiction, 10 minutes avant que les réseaux se battent pour dire que François Legault sera à la tête d'un gouvernement caquiste majoritaire pour les 4 prochaines années à la suite de l'élection d'octobre dernier. Oui, c'est plate. Oui, c'est pas le fun. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle on est. Mais faut quand même aller exprimer son droit de vote. Parce que si, en plus, François Legault rentre avec un 35-40% des gens inscrits comme Doug Ford, ça va être d'autant plus gênant que François Legault va être élu par 900 000, 1 million maximum de Québécois pour qu'il va pouvoir se targuer de dire qu'il a un mandat fort et majoritaire. Non, ça serait complètement inacceptable. Donc, allez voter, même si c'est déjà acquis à la CAQ. Mais justement, si les gens sortent voter, peut-être que ça pourrait faire que certaines courses vont être un peu plus serrées que des couronnements de 2000, 3000, 4000 voix d'avance sur le plus proche compétiteur de la Coalition Avenir Québec. Donc, sortez voter quand même, c'est ça l'important. Même si on connaît le résultat, allez voter quand même. C'est important de dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est en accord, mais c'est important d'aller voter quand même, même si on sait les résultats. On s'arrête quelques instants. Au retour, la conclusion de l'émission de cette semaine. On va l'entendre le petit Béliveau avec J'aimerais avoir un John Deere sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3.
I say him ride a war and John Deere the driver as here the highway we tool mode party a yar me foudram tue ma more fra point trop dans une place him ride a war and John. J'aimerais que le monde ou mon tracteur qui se dise oh ça c'est pas mal vrai. Or my mom's right there. Il dit de rien au sado qui fa bonne. Avons plus besoin de se demander si Kava et John Deere n'auraient plus besoin de mourir. Si Kava et John Deere montrent un point si compliqué.
De retour au deuxième service pour la conclusion de cette semaine. Restons en télévision puisqu'on a annoncé que notamment Stéphane Bureau allait avoir une nouvelle émission de TV Vision du côté de TVA. Dans le cas de Stéphane, qui, bon, a claqué la porte de Radio-Canada à cause de la charte de plomb. On se souviendra, comme il le disait, qu'il se sentait restreint suite à des mauvais commentaires qu'il avait eus après une entrevue avec le docteur déchu Didier Raoult, qui, bon, a été prouvé maintes fois qu'il avait falsifié les documents, qu'il avait fait de fausses études. Bon, Stéphane Bureau le recevait en entrevue et plutôt que de le challenger, il l'a laissé déblatérer ses niaiseries sans intervenir ou en tout cas sans sans lui donner, oui, mais attention, le reste de la communauté scientifique dit ça. Ce qui fait en sorte qu'à la fin de son contrat avec Radio-Canada, il a décidé de ne pas le renouveler parce que l'ombudsman de Radio-Canada avait reçu des plaintes suite à cette entrevue avec Didier Raoul qui a été pas complaisant, mais qui a été très... qui a donné un passe-droit, quasiment. On peut dire ça comme ça. Donc, ce qui fait en sorte que Stéphane Bureau, fâché, a quitté la tour de Radio-Canada à nouveau pour se diriger de nouveau du côté de TVA. Et on apprenait que normalement, il aurait dû piloter une émission de débat dans une case horaire qui allait être contre « Tout le monde en parle » le dimanche soir. Finalement, ben, cette case-là ne sera pas occupée par Stéphane Bureau puisque la voix sera de retour à Radio-Canada avec de nouveaux juges notamment. Mais ça fait en sorte que Stéphane Bureau doit se trouver une nouvelle case horaire. Et donc, l'émission qui s'appelait « Assoyez-vous » se nomme maintenant Le monde à l'envers. Donc, ce n'est pas la suite du monde de Charlotte. C'est bien une nouvelle émission, Le monde à l'envers. Donc, durant 90 minutes, Stéphane Bureau, quatre panélistes réguliers et un invité débattront de sujets d'actualité allant des plus sérieux aux plus légers. Si on se fie aux pilotes, ça va être encore Richard Martineau, Sophie Durocher, Benoît Dutrisac et un quatrième, Mathieu Bock-Côté, peut-être, qui vont le rapatrier de la France, sait-on jamais. Donc, ce sera les chroniqueurs du Journal de Montréal à l'émission de Stéphane Bureau et un cinquième invité qui vont chialer sur l'actualité de la semaine. Viennent se greffer un ou deux invités incontournables qui font la manchette, donc des vedettes de TVA qui vont venir promouvoir les émissions, on s'en doute bien. Discussion animée, entrevue pertinente et échange avec le public en studio. Oh, on se rapproche tranquillement, pas vite, de Jerry Springer. Et à la maison, sur différents sujets qui soulèvent les passions, seront au cœur du rendez-vous hebdomadaire, un talk show qui nourrit les esprits, qui divertit, annonce le document de présentation de l'émission. L'émission devrait maintenant se retrouver dans la case du vendredi 20h. Donc, plutôt que d'être « Ça finit bien la semaine », qui est un talk show de divertissement pur et simple, là, on tombe dans le débat de 90 minutes. C'est assez particulier, c'est assez audacieux, j'ai envie de dire. Normalement, à l'automne, c'est quoi? C'est les petits tannants de Pierre Hébert. Ça va être quoi? Ça va être un assez bon clash. Des enfants de 5 ans qui font des mauvais coups contre Sophie et Richard à TVA. C'est assez particulier. Non, mais ça peut être prêt à ne pas envoyer de fleurs aussi. Parce qu'habituellement, Radio-Canada mise sur l'humour depuis quelques années le vendredi soir. À suivre. La logique du vendredi implique donc que Pierre Bruno, Stéphane Bureau pourrait recevoir les invités de Guillaume Lepage maintenant qu'il est en direct. Parce qu'on se souviendra qu'à une époque où Tout le monde en parle est enregistré le jeudi soir, les invités devaient signer un contrat d'exclusivité, donc qui ne pouvait accorder aucune entrevue le vendredi, le samedi ou le dimanche dans la journée avant que l'émission Tout le monde en parle soit diffusée le soir. Donc, ça faisait en sorte que, justement, certaines émissions de TVA se retrouvaient à court d'invités qui ont marqué l'actualité de la semaine. Mais maintenant que l'émission est en direct le dimanche soir, on peut se permettre d'avoir les mêmes invités, entre guillemets. Donc, ça sera à suivre du côté de TVA. Pour l'instant, c'est le vendredi soir qu'on devrait voir cette nouvelle émission-là. Reste à voir si cette case-là va bouger ou rester telle qu'elle. C'est pas impossible. L'émission vient déjà de changer de case horaire, donc c'est pas impossible qu'elle rechange à nouveau. L'émission devait commencer justement ce printemps dernier. Apparemment, les pilotes n'étaient pas tout à fait ce qu'on pensait ou ce qu'on voulait que ça soit, ce qui fait en sorte que ça ne s'est pas passé ce printemps dans la case contre Tout le monde en parle. On l'attend plutôt à l'automne, donc ce sera dans le grand retour de la programmation de l'automne de TVA qu'on pourra voir, comment je l'ai appelé déjà, qui va s'appeler, mon Dieu, c'est déjà tellement pas mémorable comme titre, « Monde à l'envers ». Voilà cette nouvelle émission que Stéphane Bureau animera du côté de TVA avec les vedettes de TVA Nouvelles. Et c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine dans l'horaire régulier pour une autre édition du deuxième service du côté de Québec. Devrait suivre à l'instant Manque pas le bateau en direct de Tadoussac. Restez à l'écoute sur les ondes de Chiz 94.3. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut!
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. la semaine prochaine, c'est good. Désolé, j'ai pas d'expect depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute local avec Cheese 94.3.
C'est la fête de la fête. Pour le 15e anniversaire de la fête de la musique de Québec, on vous invite à festoyer avec nous sur la rue Saint-Jean. Avec une programmation locale inclusive et diversifiée, viens faire le plein de découvertes musicales avec nos 50 spectacles gratuits en après-midi, comme en soirée, du 17 au 19 juin. Et en primeur, cette année, notre toute nouvelle bière personnalisée pour étancher ta soif. C'est effectivement un événement à ne pas manquer.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Hey, what's up tout le monde? C'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.